Vision d'histoire.
Bonjour et bienvenue à Vision d'Histoire. Je m'appelle Martine Dumais. Il me fait plaisir de vous accueillir comme à chaque semaine. Aujourd'hui, nous recevons avec grand plaisir M. Alain Laberge, historien, professeur et directeur du département d'histoire de l'Université Laval. C'est un homme fort occupé, donc nous le remercions du temps qu'il va consacrer à nos auditeurs et auditrices. Bonjour M. Laberge.
Bonjour.
Merci d'être venu. Aujourd'hui, vous allez nous entretenir de l'Église et du clergé dans le monde seigneurial laurentien, donc la présence ecclésiastique dans le monde rural. Vous vous intéressez dans tous vos travaux à la Nouvelle-France. D'où ça vient cet intérêt-là?
Ah, c'est quelque part dans l'inconscient là, de mon cerveau, j'imagine. Mais je me souviens, à la petite école, on regardait les livres des frères des écoles chrétiennes. Puis il y avait des images là-dedans. C'était absolument épouvantable comme matière quand on regarde ça aujourd'hui. Mais ça m'a toujours frappé, cette période-là. Là, je me souviens, les martyrs, puis d'Iberville, tout ça. Puis des émissions de télévision aussi, quand on était jeune. À Radio-Canada, il y en avait beaucoup, hein, d'Iberville, justement. Puis plein d'autres affaires. Les forges de Saint-Maurice, cette série. Là, je m'en souviendrai toujours. C'était très, très bien joué, puis c'était très intéressant. Et puis, je dirais, les années 70 étaient propices à ça, hein, avec la montée du nationalisme, tout ça, et puis aussi des projets comme Place Royale. J'ai été guide historique à Place Royale pendant mes études de baccalauréat, et c'est vraiment ça, je dirais, qui a scellé mon intérêt pour la Nouvelle-France, là, compte tenu que j'étais plongé dedans dans mes visites.
Et donc, cet intérêt-là, vous allez le partager avec nos auditeurs. Vous avez choisi pour les deux émissions deux thèmes bien précis. Le premier, c'est Seigneur et Seigneurie ecclésiastique. La deuxième émission sera consacrée à l'Église, le clergé et les paroisses rurales. Quel est le cadre chronologique de votre présentation?
Bon, c'est le 17e siècle, le 18e siècle, donc la Nouvelle-France, et aussi cette espèce d'appendice tout à fait naturel qui va jusqu'au milieu du 19e siècle, donc ce qu'on appelle le régime anglais. Pourquoi faire 17e jusqu'au milieu du 19e siècle? C'est que pour le monde rural, ça forme une cohérence. Rappelons-nous que le régime seigneurial, qui est la définition, on pourrait dire, foncière du monde rural, est aboli en 1854, donc après ça, c'est un autre régime foncier qui s'installe. Et au niveau des autres institutions rurales, c'est la même chose. Les institutions proprement municipales commencent à apparaître dans les années 1840-50, donc ça fait disparaître les anciens cadres d'organisation. Et même l'Église, on pourrait dire, la paroisse ne change pas en tant que telle, mais il faut dire qu'à partir des années 1840-1850, il y a malgré tout un certain renouveau au niveau de la pratique religieuse, tout ça. Ben, enfin, c'est un débat. Mais donc, il y a là aussi comme une coupure après les rébellions. Donc, finalement, du début jusque vers les 1850, c'est à peu près, ça forme un ensemble assez cohérent. Et après ça, évidemment, le chemin de fer arrive. Donc, je me dis, quand le chemin de fer arrive, moi, je m'en vais.
Bon, ben on va attendre pour le chemin de fer, d'une certaine façon. Donc, si on commence par la seigneurie, qu'est-ce qu'une seigneurie?
Ah, ben une seigneurie,
pour un historien, là.
Oui, oui. Une seigneurie, c'est une entité, c'est une institution qui a deux caractères. Un caractère foncier, c'est un mode de propriété foncière, carrément, et c'est aussi un ensemble de droits. Qui dit seigneurie dit des droits qui s'y rattachent et dont peut profiter le bénéficiaire de la seigneurie, le seigneur. Donc, en gros, c'est ça. C'est un territoire avec des droits qui y sont joints.
Et d'où ça vient, quand on arrive en Nouvelle-France avec des seigneuries, est-ce qu'on invente ça? Est-ce qu'on prend un modèle en Europe?
C'est une très vieille institution que la seigneurie qui remonte très, très loin au Moyen Âge. Et quand on parle de féodalité, le service de Mahom, tout ça, qui existait à une époque au Moyen Âge, la seigneurie fait un peu partie de ça. Hein? Et au 12e siècle, à peu près, on a commencé à voir une transformation. Donc, la seigneurie qui avait été obtenue par un individu, plus souvent qu'autrement, c'était un noble en provenance de la propriété royale qui lui concédait ça. Il avait, jusqu'au 12e siècle, il avait une espèce de prééminence sur toute la vie des gens qui vivaient sur sa seigneurie. Et Donc, ça, c'était ça, la féodalité. Et ça va se transformer à partir du 12e siècle en, finalement, en paiement de droits, de redevances qui sont fixes et qui sont beaucoup plus faciles à gérer. Donc, graduellement, le caractère féodal va s'amoindrir. Et évidemment, rendu au 17e siècle, il n'est plus du tout question de féodalité, mais le système foncier, lui, demeure. Et quand on pense à occuper, à peupler, à coloniser l'Amérique du Nord et notamment la vallée du Saint-Laurent, tout naturellement, on pense à la tenure seigneuriale. Dès l'époque de Roberval et de Cartier, Roberval avait dans sa commission des éléments qui montraient que c'était une propriété de nature seigneuriale. Le marquis de La Roche, ensuite, fin 16e, la même chose. Et après ça, en Acadie, comme au début de la Nouvelle-France au Canada, dès le début du 17e siècle, la propriété des terres a immédiatement été sous la tenure seigneuriale. Il n'y a jamais eu de débat là-dessus, ça venait tout naturellement. C'était comme ça en France, ça allait être comme ça dans les colonies.
Et est-ce qu'il y a des types de seigneuries plus civiles ou laïques et ecclésiastiques, d'une certaine façon? Parce qu'il y a des ecclésiastiques qui vont des seigneurs.
Absolument. En fin de compte, une seigneurie peut prendre plusieurs visages, dépendant de son titulaire, comme aussi de sa fonction en tant que telle. Il ne faut pas oublier qu'il y a des seigneuries qui sont considérées dans des endroits comme en Gaspésie, où évidemment le peuplement n'était pas la première visée. Non, on pensait plus à la pêche dans ce temps-là. Même chose, il y a des seigneuries qui ont été considérées essentiellement au départ pour servir à des fins missionnaires, comme la seigneurie de Sillery, hein, et d'autres aussi, comme à Oka, au lac de Deux-Montagnes. Donc, c'était ça. Mais aussi, évidemment, les seigneuries sont considérées à des individus différents. Tantôt, j'ai évoqué la noblesse. C'est évidemment le premier récipiendaire de des terres seigneuriales. Ce sont des nobles. Et ensuite, évidemment, tout de suite après, ce sont les ecclésiastiques, en communauté. Ce n'est pas l'Église qui tient des seigneuries. Ce sont plutôt des communautés religieuses qui obtiennent comme ça, des seigneuries. Et en Nouvelle-France, il y aura comme ça une part importante de la propriété seigneuriale qui sera ecclésiastique, carrément ecclésiastique.
Vous avez évoqué tout à l'heure que la seigneurie peut avoir une fonction missionnaire. Je suis curieuse, pouvez-vous nous en parler un petit peu plus?
Ben, effectivement, au début, la seigneurie de Sillery est concédée non pas aux jésuites. Et d'ailleurs, c'est l'objet d'un débat juridique présentement. Il y a une contestation judiciaire. Donc, en 1537, la seigneurie de Sillery est concédée aux Amérindiens sous la tutelle des bons pères jésuites. Donc, essentiellement, en termes de propriété, c'est clair, ce sont les Amérindiens, mais la gérance, on pourrait dire, la gestion relève des Jésuites, qui sont un peu comme les tuteurs des Amérindiens. Les Jésuites vont évidemment voir qu'il y avait là un problème, ils vont chercher à rapatrier, si on peut dire, la propriété pleine, ce qu'ils vont réussir à faire, finalement, après une coupe de manœuvres, bon, on n'entrera pas dans les détails. Donc, il y avait effectivement comme ça, les Amérindiens étaient comme ça, dotés de certains éléments seigneuriaux. Même chose au Sault-Saint-Louis, les Jésuites vont avoir le même problème au Sault-Saint-Louis, mais par exemple, les Sulpiciens, qui se font considérer la seigneurie du lac de Deux-Montagnes, en 1717, donc beaucoup plus tard, et après avoir vu l'expérience jésuite, les Sulpiciens, eux, au lac de Deux-Montagnes, c'est très clair, la seigneurie leur appartient pour opérer une mission accueillant, bien sûr, des Amérindiens.
Et les seigneurs, donc, qu'ils soient ecclésiastiques ou autres, ont des privilèges et des droits. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionnait en féodalité. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus?
Ben, tout à fait. Hein. La seigneurie, c'est le monde du privilège. Hein. Le détenteur de la seigneurie, le seigneur, il a un ensemble de prérogatives hein, qu'il exerce de façon et dont il bénéficie de façon exclusive dans le territoire seigneurial dont il est le propriétaire. Donc, il y a plein de choses là-dedans. Il y a des droits qui sont des droits pécuniers, hein, qu'on appelle des droits réels. Donc, c'est le cens, c'est la rente. On ne fait pas toute une liste, mais il y a comme ça, à chaque année, le censitaire, celui qui détient une terre concédée par le seigneur à l'intérieur de la seigneurie, le censitaire va devoir payer ces redevances-là. Il y a aussi toutes sortes d'autres droits, comme le droit de banalité. Hein? Le seigneur a le droit exclusif d'avoir un moulin banal à farine ou à quoi que ce soit d'autre. D'ailleurs, mais ce sont surtout des moulins à farine, on se comprend. Et il l'opère, il le fait bâtir, et les censitaires sont obligés d'y aller et de payer, évidemment, de laisser un prélèvement. C'est 1/14 des grains. Donc, il amène 14 poches de grains. Alors, il va repartir avec seulement 13. C'est un peu comme ça qu'il fonctionne. Et d'autres droits aussi, très, très nombreux. Il y a des droits personnels, la pêche, la chasse. chasse, la pêche, le Seigneur va le reconcéder aux habitants, la chasse aussi, mais ce sont des vestiges des privilèges en France où la chasse était exclusivement un privilège de la noblesse seigneuriale. Et il y a d'autres droits aussi, des droits honorifiques, qui sont des droits de prestige, dont le bain à l'église, des trucs comme ça. Donc, c'est un ensemble de droits, et tout ça mis ensemble, ça correspond à des privilèges importants, et là, j'ai mis une réserve très importante, en autant qu'il y ait du monde sur la seigneurie, parce que tout est là. C'est bien beau avoir des droits, mais il faudra être capable d'en tirer profit.
Écoutez Vision d'Histoire, je suis en compagnie d'Alain Laberge, historien. Nous parlons des seigneurs et seigneuries ecclésiastiques en Nouvelle-France. Alain Laberge, vous avez laissé nos auditeurs un petit peu en suspens avant la pause musicale. Vous avez dit donc qu'ils ont des droits, les seigneurs, en autant qu'il y a du monde sur leur seigneurie. Je suis sûr que tout le monde a eu des grands points d'interrogation dans les yeux.
Vous comprenez que c'est bien beau d'avoir droit à certaines redevances, tout ça, mais s'il n'y a pas d'habitants d'installer, s'il n'y a personne pour payer ça, la seigneurie est d'aucun profit matériel pour le titulaire. En plus, pour tirer profit de certains de ses privilèges, le seigneur doit investir. C'est bien beau avoir le droit de banalité, mais encore, le moulin, ça tombe pas du ciel, il faut le bâtir. Ce sont des frais d'investissement très, très, très importants. Et les seigneurs, malgré leur noblesse, tout ça, ne sont pas très riches. Et même les ecclésiastiques financent rapidement ces installations-là, mais ça leur coûte cher et ça met leurs finances souvent en difficulté. Et évidemment, on s'attend d'avoir un retour, mais un retour, il faudra qu'il y ait beaucoup d'habitants pour pouvoir utiliser à plein un moulin et pour pouvoir tirer un profit de tout ça. Donc, c'est toujours le rapport de force, si on veut, entre les seigneurs et les censitaires. Ça va reposer sur le nombre de censitaires, hein, qui sera plus ou moins grand, et la volonté du seigneur de vouloir investir pour pouvoir profiter de sa seigneurie. C'est un peu le dilemme qu'ils ont.
Et ça nous ramène à un élément important qu'on a étudié la Nouvelle-France, c'est que la population au départ n'est pas très nombreuse au Québec. En Nouvelle-France,
toute petite. Hein? On est 7 millions aujourd'hui, 6 millions, comme on disait dans le temps, dans les annonces. Là. Mais bon, à l'époque, c'était une toute petite population. 3 000 en 1663, autour de 20 000, autour de 1700 à peu près. C'est tout petit. Comparé aux colonies américaines, c'est vraiment rien. L'écart est important entre les deux. Et évidemment, vous comprenez bien que à peu près toutes les rives du Saint-Laurent sont découpées en seigneuries. Donc, ça fait beaucoup de seigneuries. Ça fait beaucoup, donc, de seigneurs qui offrent des terres. Mais il n'y a pas tant de demandeurs que ça. Donc, les gens ont un peu le choix. Et c'est ce qui fait que les seigneurs sont mal placés pour pouvoir imposer ou exiger à outrance le paiement des droits. Donc, dans les premières années, au 17e siècle, là, la plupart des seigneuries, il y a des arrérages de droits considérables. Les habitants sont peu nombreux. Le seigneur n'a pas beaucoup d'argent et il n'a pas non plus les ressources pour engager quelqu'un pour aller percevoir ces droits-là. Quand il y a 3-4 familles, vous comprenez bien que ça ne représente pas grand-chose. Et évidemment, oublier le moulin, oublier la construction de manoirs aussi, de ça reste extrêmement rudimentaire. C'est seulement avec le passage des générations, hein, la population double à tous les 25-30 ans à peu près, c'est ça qui va faire qui va assurer la survie de la colonie, mais ça c'est pas avant le 18e siècle où les seigneuries vont devenir assez populeuses pour pouvoir vraiment devenir intéressantes pour les seigneurs et évidemment pour susciter des investissements de leur part et des actions pour pouvoir aller recevoir enfin les sommes qui leur sont dues.
Il me semble que si on compare ça avec ce qu'on a appris dans nos manuels scolaires au secondaire, que vous êtes en train de nuancer beaucoup une image d'Épinal, des seigneurs, des seigneuries. Il y a beaucoup de choses qu'on a appris avec les recherches historiques, j'imagine, parce qu'on avait un schéma qui était presque figé dans le temps des seigneuries.
Ben effectivement, il faut toujours voir ça comme un long processus. Hein. C'est sûr que les seigneuries qui sont près des villes, hein, on pense à la Côte-de-Beaupré, les seigneuries près de Québec, tout ça, l'île de Montréal, évidemment. C'est sûr que là, il y a eu du monde vite assez rapidement, l'île d'Orléans aussi d'ailleurs, mais ailleurs, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc, il faut faire attention aussi à... donc, la situation, souvent qu'on a en tête, c'est la situation qui est évoquée par Aubert de Gaspé dans ses mémoires. Mais attention, c'est une situation du 19e siècle où là, effectivement, il y a du monde partout, où la seigneurie est très, très, très profitable. Mais en 1680, c'est pas du tout la situation dominante.
Et donc, là, on a vu tout à l'heure que le seigneur a des droits, mais il y a aussi des devoirs. Vous avez évoqué le moulin, mais il y a d'autres devoirs par rapport à ces censitaires.
Il faut faire attention à ça. Souvent, quand on lit, je l'ai moi-même écrit à certains endroits, droits et devoirs, c'est une façon commode de décrire la situation. Mais quand on y regarde de très, très près, quand vous regardez un acte de concession d'une seigneurie, le roi ou l'intendant, là, pour le roi, concède à... soit une communauté religieuse, soit un noble, soit un marchand, peu importe, une seigneurie quelconque. Quand on regarde, là, il y a effectivement là des devoirs du seigneur envers son suzerain, le roi. Hein? Des droits qui sont assez nombreux, tout ça. Des droits aussi symboliques comme la foi et hommage. Hein? On reconnaît la subordination, tout ça. Mais après ça, quand on regarde l'autre contrat, celui que le seigneur fait à son censitaire quand il lui concède une censive, ce que l'on voit là-dedans, ce sont des devoirs du censitaire envers son seigneur, qui sont très, très nombreux. Toute la liste qu'on a dit tantôt et d'autres qui s'ajoutent. Donc, techniquement, ce qu'on doit dire, c'est que le seigneur a un certain nombre de devoirs, mais envers l'État. Hein? Et l'histoire du moulin, par exemple, c'est un devoir, c'est un souhait. Comme on veut voir le seigneur procéder rapidement au peuplement de sa seigneurie, puis la concéder en terre, tout ça. Mais ça, dans les faits, peu de seigneurs vont le faire, et d'ailleurs, peu de seigneurs vont être punis pour ça. Il n'y a pas de seigneurs qui vont perdre leur seigneurie parce qu'ils n'ont pas construit de moulin dessus. Ça n'existe pas. Les seuls cas où le roi a repris des seigneuries, c'était des cas d'abandon pur et simple ou de choses là, qui étaient vraiment très, très particulières. Mais aucun seigneur n'a été inquiété parce qu'il n'avait pas ou bien peuplé assez vite ou bien ne pas avoir fait construire un moulin, par exemple. Donc ça, c'est très, très important. Et par contre, les seigneurs pouvaient, eux, réunir les terres des censitaires qui ne répondaient pas strictement à un certain nombre de droits qui étaient édictés dans les contrats. Encore une fois, les seigneurs vont commencer à exercer cette pression-là à un certain moment, au bout d'une génération ou deux, quand leur seigneurie sera assez remplie. Voilà.
Et qu'est-ce qu'on sait de la vie sur une seigneurie?
Alors évidemment, il faut toujours, encore une fois, il faut mettre ça en perspective. Ça dépend si on est en ce qu'on appelle en phase pionnière, donc au tout début, ou bien si on est en phase plutôt d'enracinement, où là, il y a pas mal de monde, le premier rang est plein, ce sont les exploitations qui sont largement autosuffisantes, qui produisent même des surplus. Hein. Il faut aussi tenir compte, est-ce que le seigneur est présent ou pas? Parce que les seigneurs ne résidaient pas toujours sur leur seigneur.
Est-ce qu'il faut être en Europe?
Pas tellement en Europe, comme plutôt dans les villes.
Okay.
Parce que comme c'était des nobles, tout ça, plusieurs étaient officiers militaires, ils demeuraient dans les villes, évidemment, ils étaient en garnison dans les forts reculés des pays d'en haut pendant la saison de la traite des fourrures. Les ecclésiastiques, à ce compte-là, sont des seigneurs, on pourrait dire, assez intéressants, parce que la communauté au complet ne demeure pas sur la seigneurie, mais les seigneurs ecclésiastiques, les jésuites, le séminaire, tout ça, a toujours des représentants dans sa seigneurie qui, justement, veillent au grain. Donc, les seigneurs ecclésiastiques sont peut-être les premiers à avoir été conscients des droits qu'ils avaient et de la nécessité de les faire appliquer. Parce que les seigneurs ecclésiastiques avaient des obligations importantes, des mandats importants dans la colonie. L'éducation, la santé, la charité, c'était toutes des choses qui relevaient du clergé. Et c'est pour ça que le roi leur concédait des seigneuries, pour pouvoir leur donner une source financière pour pouvoir aider à toutes ces œuvres. Et donc, les seigneurs ecclésiastiques vont se faire concéder rapidement ou vont acquérir des seigneuries près des villes qui sont donc vite peuplées. On pense à l'île de Montréal, on pense à l'île d'Orléans, on pense à la côte de Beaupré qui, ultimement, va finir dans les mains du séminaire de Québec et ailleurs, à Batiscan, dans la seigneurie, dans la zone de Trois-Rivières, tout ça, à la Prairie, près de Montréal, toutes des seigneuries ecclésiastiques qui sont très, très vite peuplées parce que le clergé a besoin des sous qui proviennent d'une gestion efficace des seigneuries. Le clergé ne pouvait pas rester les bras croisés à attendre Alors, ils ont été extrêmement proactifs, on pourrait dire, parce qu'ils avaient besoin de ces sous. Et les premiers seigneurs, on pourrait dire, qui étaient un peu tracassiers pour les censitaires, ce sont des seigneurs ecclésiastiques, les sulpiciens, tout ça. Et c'est là que les habitants vont exercer ce qu'on appelle leur résistance passive. Hein? Ils font semblant de pas trop comprendre. Ah, oh, ben oui, ça c'est dû, on va attendre un peu. Donc, ils laissent passer le temps. Ils cherchent à gagner un peu de temps, mais ultimement, les crocs du Seigneur vont se refermer sur eux.
Alain Laberge, quand on parle des seigneurs ecclésiastiques, Mgr de Laval était un seigneur ecclésiastique.
Tout à fait. Mgr de Laval était bien sûr le premier évêque, mais il a aussi, de lui-même, avec ses propres sous, acheté des seigneuries, dont évidemment la seigneurie de la Côte de Beaupré, ou de Beaupré, qui était évidemment un fleuron incroyable, parce que c'était la seigneurie la mieux peuplée au moment où Mgr de Laval l'a acquise dans les années 1660. Et c'est de cette manière-là que le séminaire de Québec s'est trouvé à devenir propriétaire de la Côte de Beaupré, parce que Mgr de Laval a fait du séminaire, son héritier universel. Et donc, le séminaire a eu ça par legs, par héritage. Et voilà, Mgr de Laval a eu une action très importante. Il a aussi eu l'île d'Orléans, parce que Beaupré et l'île d'Orléans, c'était en même temps, c'était attaché ensemble. Et il l'a échangé contre l'île Jésus, hein, où le séminaire va faire des développements importants au 18e siècle. Il s'était comme gardé une zone un peu plus reculée, un peu plus éloignée, en fonction de la suite des choix. Mais ça, toutes choses qui reviendront, bien sûr, au séminaire en tant que tel, à partir des années 1780-90.
Et quand arrive la conquête, qu'est-ce qui se passe pour le système seigneurial?
Bien, il se passe pas grand-chose, en fin de compte. Et remarquez que ça ne sera pas avant l'acte de Québec de 1774 que les choses vont être confirmées quant à l'existence reconnue du régime seigneurial. Donc, pendant quelques années, il y a eu un petit flottement. Mais après ça, bon, ça va suivre son cours, comme j'ai dit, jusqu'en 1854. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'après la conquête, il y a des seigneurs d'origine française ou canadienne qui vont retourner en France pour toutes sortes de raisons. Les militaires qui étaient accusés, par exemple, dans les scandales liés à l'affaire du Canada avec Bigot, etc. Donc, il y a des gens qui ont dû quitter le Canada
et qui
étaient seigneurs. Et certains ont réussi à faire venir leur famille, et il y a des familles qui ont été divisées, mais dans chacun des cas, les seigneurs ont dû poser la question « Qu'est-ce que je fais de mes biens au Canada? » et notamment des seigneuries. Donc, c'est ce qui fait que dans les années 1760, on voit apparaître sur le marché immobilier, appelons ça comme ça, des seigneuries. Quand vous regardez la Gazette de Québec dans les premiers numéros, ce que vous voyez, « Seigneurie to be sold », et vous voyez ça, des véritables annonces, hein, et effectivement, il y a eu des preneurs. Il y a eu des gens qui ont acheté ces seigneuries-là, et pas n'importe qui. Qui vous pensez qui les a achetées?
On imagine des anglophones?
Des anglophones, exactement. Des anglophones qui n'étaient pas du tout rébarbatifs au système seigneurial. Il faut faire attention. C'est pas britannique, veut pas dire opposition totale au régime seigneurial. Un régime foncier comme la seigneurie, ça existait en Angleterre en partie, ça existait même dans certaines colonies, dans les 13 colonies américaines. Donc, c'était pas quelque chose d'inconnu ni de foncièrement mauvais. Et il y a beaucoup de seigneurs, des officiers militaires. Le gouverneur Murray va être un des premiers à se commettre là-dedans, à approcher des seigneuries. Ils y trouvaient là un investissement intéressant. Ça reposait sur leur conception de la société où, en haut, on a une aristocratie foncière bien, bien dotée. Et pour eux, ça correspondait à ça et ils ont joué le jeu. Ils ont acquis donc des seigneuries un peu partout, mais pas des seigneuries ecclésiastiques. Les ecclésiastiques gardent leurs seigneuries parce que les besoins dont on a parlé tantôt se poursuivent et donc les seigneuries sont d'un excellent rapport après la conquête et il n'y a aucune raison pour les ecclésiastiques de vendre les seigneuries. les ecclésiastiques vont connaître, sur le plan de la propriété, des problèmes quand va disparaître le dernier jésuite, l'abbé Cazot, hein, le père Cazot, parce que là, toutes les terres des jésuites vont être rapatriées par la couronne. Ce seront donc la question des biens des jésuites et qui vont devenir terres de la couronne en 1805, je crois, quand le fameux jésuite est décédé. Donc ça, c'est un point important, mais c'est à peu près le seul. Pour le reste, le clergé va garder ses seigneuries. Le séminaire, encore aujourd'hui, possède les pans de la forêt Montmorency, tout ça, qui sont toutes des vestiges, évidemment, ce sont là des vestiges de l'ancienne propriété seigneuriale des 17e, 18e, 19e siècles.
Alain Laberge, l'émission tire à sa fin déjà. Les seigneuries vont laisser un impact sur le paysage de la Nouvelle-France à l'époque et du Québec d'aujourd'hui.
Bien entendu, ne serait-ce que le découpage des terres qui se faisait habituellement sous la forme de longs rectangles perpendiculaires au fleuve ou à d'autres cours d'eau. Des fois, on fait une image trop rapide. Et bien sûr, le fleuve est très, très important, mais les cours d'eau, le secondaire, le sont tout autant, et même si, parfois même plus, parce qu'il y a moins de risques d'inondation. Et ce sont des terres, souvent, qui sont meilleures que des terres très escarpées, comme on voit sur le bord du fleuve, comme à Lebinière. Il y a une méchante falaise, comme on dit. Donc, ce découpage-là, on le voit encore quand on prend l'avion. C'est très clair. Là, on revoit, d'une certaine manière, là, les anciens découpages seigneuriaux.
Alain Laberge, il me semble qu'en vous écoutant, je me dis, mon Dieu, ce que j'ai appris à l'école a bien changé. Il y a des nuances probablement qui n'étaient pas faites. Il me semble que quand j'étais en secondaire 3, quand on apprenait l'histoire du Canada, on nous disait township anglophone, seigneurie francophone. Il y avait moins de nuances.
Alors, beaucoup moins de nuances, effectivement. C'est qu'on faisait, on voyait mal l'évolution lente dont j'ai parlé tantôt à travers le temps, et on se trouvait à stéréotyper les seigneuries comme elles étaient justement vers la fin du régime. Donc, il fallait bien montrer, et je pense que les recherches récentes l'ont montré, des recherches sur le terrain pour vérifier exactement la vie des habitants. Donc, toutes les recherches sur, pas seulement sur la seigneurie, mais sur la vie rurale, sur la paysannerie, sur l'agriculture, toutes des choses qui ont contribué à mieux connaître les campagnes d'autrefois, incluant le régime seigneurial.
Alain Laberge, merci beaucoup pour cette première émission. Nous vous invitons à revenir la semaine prochaine pour une seconde émission sur le système seigneurial en Nouvelle-France. Merci à Alain Laberge, donc notre invité. Merci à Jonathan Martin pour la mise en onde et à Mario Blouin pour le choix musical. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission de Vision d'Histoire.